Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de déni de service avec Louise Delabarre de la société Radware.
Bonjour.
Avec Nicolas Fischbach de la société Colt.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Chauveur.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Louise Delabarre, un déni de service, qu'est-ce que c'est ?
Si on reprend une définition, on va dire communément acceptée aujourd'hui, un déni de service, c'est une attaque informatique qui vise à rendre indisponible un service de façon générale. Ce qu'on peut oublier peut-être, et c'est le complément que je ferai dans ma réponse, généralement on accepte de dire qu'un déni de service, et lorsqu'on veut interrompre le service, dans l'esprit de tout le monde, c'est l'interrompre totalement. Malgré tout, je pense qu'il est intéressant d'ajouter qu'un déni de service, c'est aussi simplement une dégradation de ce service. Donc je voulais juste apporter ce complément, parce que je pense que tout le monde peut accepter le fait que interrompre un service, c'est une vraie attaque en déni de service, mais le dégrader, c'est aussi une attaque en déni de service.
Alors, on parle aussi beaucoup de déni de service distribué, de DDoS. Donc, qu'est-ce qu'un DDoS ?
Alors, le DDoS, si on le compare au DOS, hein, pour faire la différence, on peut aussi accepter le fait de dire que un DOS est souvent généré par un seul équipement, une seule connexion Internet. Alors, lorsqu'on parle de déni de service distribué, donc DDoS, on va parler de multiples équipements, multiples connexions Internet, et généralement distribués géographiquement. Donc l'idée dans l'attaque DDoS, c'est d'utiliser un grand nombre d'équipements afin d'augmenter la puissance de l'attaque et de rendre, comme je l'ai dit auparavant, ce service indisponible ou de dégrader fortement la qualité de ce service.
Alors en anglais, effectivement, DDoS, c'est Distributed Denial of Service. Mais factuellement en français, pour être juste, on peut pas dire distribué parce que c'est un faux ami. La traduction de distributed en français, c'est réparti. Et en fait, dire distribué est un contresens. Est-ce que vous savez la différence entre réparti et distribué ? Elle est fondamentale. Quand on est distribué en français, c'est de 1 vers N. C'est de 1 vers plusieurs.
Comme distribuer des cartes ?
Réparti, c'est de autant qu'on veut vers autant qu'on veut. C'est de N vers N. Or, un déni de service réparti, c'est généralement de beaucoup vers un. Donc dire distribué qui est de un vers beaucoup est un contresens. Donc soyons respectueux de la langue française et donc en français, déni de service réparti.
Ah ouais, merci mais Hervé pour cette précision.
Le R ça va pas dans le logo, DDoS ça marche bien, RDoS ou DRDoS, enfin non c'est pas joli avec un R.
Surtout que DRDoS c'était vraiment un clone de MS-DOS. Donc...
Et puis c'est le nom d'une attaque d'ailleurs.
Et à l'époque aussi, DRDoS était utilisé pour dire les Distributed Reflective DOS.
Donc, oui, tout à fait.
Ça a été utilisé à un moment aussi. Ouais. Et sinon, Hervé aussi, ce qu'on utilisait aussi à un moment, je crois qu'on en avait débattu il y a bien longtemps, c'est de dire que c'est une attaque mutualisée. Parce qu'on mutualise des moyens distants pour attaquer une seule personne, donc ou un seul système ou un seul service.
Non, mais là, on est déjà dans le DDoS as a service.
Ça, on va y arriver encore un peu plus tard, je pense, effectivement.
Moi, je compléterais aussi par un autre point pour différencier le DOS et le DDoS, même si c'est quelque chose qu'on abordera peut-être plus tard sur le plan vraiment technique. Mais le DOS, généralement, le déni de service, hein, on va essayer d'exploiter une vulnérabilité d'une application ou en tout cas une faiblesse de l'application. Alors que lorsqu'on parle donc d'attaque répartie, pour reprendre les termes d'Hervé, lorsqu'on reprend donc ce terme-là, on a tendance à plutôt cibler l'architecture ou l'infrastructure réseau. Donc pas nécessairement exploiter une faille ou une vulnérabilité ou une faiblesse de l'application. Ce qui rend d'ailleurs cette attaque particulièrement tentante et efficace dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir une vulnérabilité dans l'application pour l'attaquer.
Donc c'est vraiment du volumétrique.
Exactement.
Généralement, ouais.
Le DOS aussi, quand j'étais plus jeune, fut une époque, on appelait ça du flood aussi.
Oui, en français, c'est tout simplement une inondation. Mais le sink flooding, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une inondation de sink.
Tout à fait.
Complètement d'accord.
Et donc historiquement, les premiers Je sais même pas si c'était des DDoS à l'époque, mais je crois que le gars le faisait, l'avait fait de sa propre machine. C'était, enfin, celui dont on a parlé, en tout cas, c'était l'attaque de Mafia Boy contre plusieurs sites importants à l'époque, comme Yahoo, Amazon, Dell et d'autres.
E-Trade, eBay, CNN One, effectivement, ouais, en 2000.
C'est un événement qui a été fondateur dans l'histoire de la sécurité, parce que concrètement, ces sociétés ont créé leur premier poste de RSSI à l'issue de ces attaques. Donc, je m'excuse de rappeler cette histoire, mais ça a été vraiment un événement important et très utile pour faire avancer la sécurité. Comme toujours, on réagit avant de prévenir.
Et c'est intéressant ton commentaire, Hervé, parce que tu vois, il y a 15 ans, c'était effectivement l'événement fondateur, alors qu'avant, c'était plutôt les kiddies qui s'amusaient entre gamers à faire du win nuke, etc. Et puis, il y a quoi? Maintenant, il y a quelques années, dans le vertical financier, les différentes banques, elles aussi ont été attaquées et tu as eu le même phénomène de réaction et de création de postes et de prise de conscience aussi opérationnelle et humaine.
C'est aussi parce que l'importance d'Internet a changé. Avant, c'était pas un média aussi important. Aujourd'hui, toutes les banques ont besoin d'Internet pour leur business.
Et donc, effectivement, si je me souviens bien, Mafia Boy utilisait un DOS à base de connexion TCP AlphaOpen. Et suite à cette attaque, il y a une option qui est apparue dans la pile TCP/IP de Windows qui permettait justement... Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui ont été implémentés, hein, les syncookies et autres, dont un qui existait dans la pile de Windows. Et quand Microsoft a réécrit la pile pour avoir la dual stack IPv4, IPv6 dans Windows Vista, en fait, ils n'ont pas porté cette option de sécurité parce que, en fait, en 2006-2007, plus personne ne l'a demandé. Et plus personne ne faisait de déni de service à base de connexion SYN AlphaOpen.
C'est possible, mais tu vois, mais ça, Nico, ça continue quand même de bien marcher. Tu regardes encore aujourd'hui, il y a tellement d'équipements qui étaient des équipements d'entreprise qui sont aujourd'hui exposés à l'Internet que même ce genre d'attaque toute simple fonctionne encore. Parce que les piles OEM qui sont réutilisées par différents équipementiers entreprises, tu les retrouves maintenant exposées sur Internet. Donc je suis persuadé que les attaques dont on parlait il y a 10-15 ans, comme les WinNuke, les Stacheldraht et j'en passe, fonctionnent encore aujourd'hui sur des équipements qui n'étaient jamais exposés à l'Internet.
Oui, alors ça fonctionne, mais enfin, je crois que c'est la LAN d'attaque, où l'IP source égale à l'IP destination.
Oui, LAN, exactement, exactement.
Et ben ça marchait sur VxWorks ou QNX il n'y a pas longtemps, quoi. Mais bon, là, il faut quand même... Je pense pas que ça marche sur des OS qui font tourner des vrais serveurs sur Internet, quoi.
Non, mais...
Effectivement, sur de l'embarqué, sur des imprimantes ou des trucs comme ça, oui, il n'y a aucune sécurité.
Exactement.
Rien n'empêche de retrouver des attaques du même type sur des piles TCP récentes aussi, hein.
J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Hervé, ce qui est intéressant en effet de voir qu'il y a eu des postes d'RSSI créés suite à ces premières attaques. Alors ce qui est flagrant, c'est qu'aujourd'hui, sans vouloir être trop offensif, aujourd'hui encore, la plupart des RSSI sont pas forcément très très à même de différencier les techniques les techniques d'attaque liées au DOS et au DDoS, et encore plus les techniques de défense dont on parlera, j'imagine.
Ah oui, et en plus, c'est pas du tout le RSSI qui va être ni moteur ni acteur dans la protection contre les attaques en déni de service. Aujourd'hui, un déni de service réparti, le RSSI il ne peut que déléguer ça aux prestataires ou aux gens qui s'occupent des réseaux et des télécoms. Il y a un décalage complet, mais on a vu aussi d'autres événements par la suite où ces événements ont permis de développer un vrai business et des tas de postes en sécurité, alors que la sécurité informatique n'était absolument pour rien dans l'événement. C'est l'histoire qui est faite ainsi.
Oui, mais Hervé, ce qui est intéressant dans ce cas précis du DOS et du DDoS, enfin d'attaque répartie, c'est que comme tu l'as dit, en effet, le RSSI, il va pas être un même, ou il va déléguer, on va dire, cette tâche-là, hein, d'adresser ces problèmes, mais quand même, en termes d'impact, et on vient de le dire, vu l'importance des connexions Internet, et je parle même pas de tout ce qui est e-commerce, mais vu l'importance des connexions Internet dans les entreprises, il est quand même au premier niveau vis-à-vis de la direction générale pour aller expliquer pourquoi tout le service a été rendu opérationnel.
Oui, mais c'est pas de la sécurité, c'est de la résilience, c'est de la continuité des opérations, de la continuité du service. eBay a perdu énormément d'argent lors de cette attaque, d'où la création du poste du RSSI aussi un vrai RSSI, enfin un CISO, parce que c'est un c'est un Américain d'origine française, bon, c'est pour ça que je le connais, mais c'est un vrai poste de RSSI, alors que l'attaque, elle a coûté de l'argent, parce que eBay n'a pas pu fonctionner et a fonctionné mal pendant un temps suffisamment important pour que ça affecte directement le business et les revenus de l'entreprise. Donc moi, je vois beaucoup plus les dénis de service du côté de la continuité d'activité que de la sécurité des systèmes d'information. Mais c'est peut-être la SSI inclut la disponibilité. Hein, je suis d'accord. Hein, c'est un débat.
Non, le vrai problème, c'est que le RSSI, c'est le rôle poubelle dans l'entreprise. Tu te fais chiffrer tes fichiers, tu vas avoir ton RSSI. Tu as une attaque déni de service sur le réseau, tu vas avoir ton RSSI. Tu veux faire un contrat avec un fournisseur de cloud, tu vas avoir ton RSSI. Enfin, en gros, tout ce que tu sais pas faire ou tout ce qui a pas un service officiel pour faire ça dans l'entreprise, tu vas avoir ton RSSI.
Ouais, mais je crois qu'aussi ce qu'on voit nous chez nos clients, Nico, c'est que tu vois la partie DDoS ou la réponse aux attaques, c'est plus de l'opérationnel. Tu vois, et le RSSI semble plus être côté conformité, 27001, etc. Et l'autre chose que tu vois très souvent, c'est qu'il y a encore ce carcan qui sépare vraiment très fortement le côté réseau de l'entreprise et les équipes sécurité. Donc très souvent, tu n'avais pas l'équivalent d'un centre de supervision sécurité ou un SOC, où tu avais les gens qui étaient à même de comprendre les attaques au niveau réseau, et ce que ça faisait au niveau sécurité, pour les pare-feux, etc., et au niveau applicatif. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont créé des rôles transversaux, où justement, tu essayais de créer un pont entre ces différentes équipes pour que tu puisses faire une réponse adaptée à un déni de service, parce que le déni de service, il va toucher tous ces éléments-là, donc le réseau, la sécurité, l'applicatif, etc. Mais je pense qu'on est déjà quasiment sur les solutions, là. On va peut-être revenir un peu sur la partie historique, etc., et comment on en est arrivé là.
Donc, pour revenir justement sur la partie historique, Vlad, quels sont les événements marquants, en fait, de ces dernières années?
Rapidement, à partir de 2005, on voit apparaître les DDoS volumétriques. Donc, en 2005, on a à peu près 10 gigabits d'attaque. Bon, ensuite, ça progresse tranquillement. En 2009, on voit apparaître aussi l'attaque SlowLoris ou SlowGet, qui est une attaque applicative, donc qui a eu pas mal de succès à cette époque-là. Et très rapidement après, donc dès l'année suivante, en 2010, le cousin de SlowGet arrive, donc SlowPost, avec un outil appelé Rudy, qui permettait donc d'envoyer des requêtes post et donc de faire une attaque applicative. Et en 2010, on était déjà à des attaques équivalentes à peu près à 100 gigabits par seconde en termes d'attaques volumétriques. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on est passé de 10 à 100. Et ensuite, en une grosse date, c'est 2013, date de l'attaque de Spamhaus, avec l'une des plus grosses attaques de l'époque, qui était de 300 gigabits par seconde, ce qui était quand même assez conséquent. Alors, il y avait eu beaucoup d'articles dans la presse un peu excessifs qui parlaient de l'attaque qui avait fait vaciller Internet, avec des valeurs complètement inexactes, mais en gros, c'était plutôt de 300 gigabits par seconde. Et puis plus récemment, il y a eu aussi Cloudflare qui a pris 400 gigabits, le PlayStation Network, etc. Vers 2014. Voilà. Et un petit chiffre qui peut être intéressant, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est une étude d'un opérateur qui s'appelle Neustar, qui date de 2014, je crois, qui disait qu'en gros, un DDoS, ça équivaut à peu près à une perte de CA de 0,02% du CA annuel. Alors, c'est un chiffre qui est très très dur à évaluer, mais ça peut être une première base de réflexion, voilà.
Ouais, je pense que ça, c'est tellement dépendant du business et de la situation des gens que moi, je fais abstraction de ces espèces de chiffres qui disent combien coûtent les attaques.
Ça te permet d'avoir une évaluation, une première idée, en tout cas le fait qu'un DDoS, ça peut avoir un impact.
Sur la partie historique, moi, j'ajouterais une opération, non pas parce qu'elle est plus importante que les autres, hein, mais l'opération qui s'appelait Ababil, qui a démarré en 2012 et qui a fini presque en 2013 avec quatre différentes phases qui concernaient, enfin, c'est lié au problème dans le monde musulman, mais elle est notable parce que en fait, elle est très longue. Il y a quatre phases et chacune des phases est entre 5 et 6 semaines. Et c'était un peu nouveau, quoi, parce que en effet, tu as cité toutes les attaques conséquentes en performance, hein, en giga ou en PPS, hein, mais cette attaque, donc l'opération Ababil, elle est était un petit peu nouvelle parce qu'elle était très très longue. D'ailleurs, elle continue encore un peu, je crois, par un.
Alors, il y en a beaucoup hein, qui ont été attaqués dans la durée. Charlie Hebdo, les premières attaques, elles étaient informatiques et les grosses attaques, c'était des dénis de service répartis qui n'arrêtaient pas.
Et je crois qu'il y a des dénis de service à toutes les couches. Parce que dans l'historique que tu as cité, il y a quand même un événement en 2008 aussi qui est assez intéressant. C'était des Finlandais, je crois, qui avaient prétendu avoir trouvé un déni de service carrément au niveau des spécifications de TCP/IP. Alors, je ne sais plus sur quoi c'était basé, mais je ne sais plus si c'était la taille de fenêtre que tu pouvais amener à zéro ou des trucs comme ça. Et visiblement, c'était assez efficace. Il y avait tous les certs qui avaient fait tout un foin, mais on n'a jamais su vraiment quelle était l'attaque. Il a présenté à T2.fi en 2008, je crois, sans donner tous les détails parce qu'il disait que c'était en cours de correction. Et ensuite, il est mort dans l'incendie de sa maison. C'est pour les attaques bas niveau, on va dire, couche zéro.
Alors justement, on a évoqué différentes attaques qui ont utilisé différentes techniques. Alors quels sont les différents types de déni de service?
Dans les catégories de DDoS, il y a trois grandes familles. Tu as les attaques volumétriques, applicatifs et sessions. Donc volumétrique, comme son nom l'indique, c'est gros volume de données, pas forcément attendu, ça peut être n'importe quoi, que tu reçois et qui est supérieur en gros à ta bande passante. C'est-à-dire que tu as par exemple un accès à 1 gigabit et tu reçois 10 gigabits de trafic. Donc forcément, ton accès devient disponible, voire même tu ne le vois même pas parce que c'est ton opérateur qui est avant toi qui saute. Donc l'objectif, c'est de saturer la bande passante et tu peux avoir de plusieurs dizaines à centaines de gigabits de trafic. C'est assez simple à réaliser, c'est pas très intelligent. Et l'intérêt, c'est que la plupart des protocoles qui sont utilisés pour ce type d'attaque font du spoofing. Donc en fait, tu n'as pas la véritable adresse IP de l'attaquant. Après, l'autre attaque qui est souvent un peu éludée aujourd'hui, ce sont les attaques dites par session, donc saturation de table de session. En gros, c'est les vieilles attaques Flood, Synflood, Session Flood, Sockstress, etc. Ça vise plutôt tes équipements périmétriques, routeurs, firewall, etc. C'est encore une fois assez simple à réaliser, tu as les outils tout faits pour, c'est pas forcément très intelligent, et là encore, tu peux faire du spoofing. Et la dernière famille d'attaques sont les attaques applicatives, où là l'objectif c'est donc de viser plutôt tes ressources applicatives, donc comprendre tes serveurs, avec un épuisement des ressources CPU RAM, éventuellement des détournements de fonctionnalités pour saturer la mémoire ou le CPU de ton serveur, des requêtes très très lentes, etc. Et là par contre c'est un peu plus complexe à réaliser, et le défaut de ces attaques là c'est que comme tu es en mode connecté, l'adresse IP de l'attaquant n'est plus masquée, donc là tu peux mettre des blacklists, enfin tu peux faire pas mal de choses à ce niveau-là.
Je pense que juste compléter ce que tu as dit, je pense que le volumétrique aussi, ce qui est important quand tu regardes le côté opérateur, c'est que tu as le volumétrique côté bande passante, mais aussi le nombre de paquets par seconde. Et très souvent, beaucoup des équipements ont des spécifications qui sont basées sur la bande passante maximale quand tu as un paquet de taille 1492 octets, par exemple, ou 1500 octets. Et en fait, tu as beaucoup d'attaques volumétriques, mais qui sont du volumétrique paquet par seconde, avec des paquets de taille minimale, style 64 octets, etc. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils avaient des pare-feux des équipements qui pouvaient faire 1 giga ou 10 gigas, etc., ce qu'on appelle line rate, sauf que c'était basé sur des paquets de grande taille ou ce qu'on appelle line X. Donc là, il faut faire relativement attention. Et puis aussi, ce qu'on voit beaucoup chez les opérateurs, par exemple, tu vois, les équipements de voix sur IP. Donc si, basé sur UDP et des choses comme ça, ton commentaire sur il faut une session, c'est du TCP établi, ne marche plus. Donc comment protéger ces applicatifs-là où effectivement tu peux toujours encore t'amuser à envoyer des paquets spoofés sans avoir de session établie.
Ouais, ce qui est encore bien dans tous ces applicatifs-là, enfin moi ce qui m'excite toujours avec ça, c'est que c'est utilisé juste par des trucs genre les services d'urgence, et là on touche vraiment à la situation dramatique de la société dans son ensemble. Je pense que heureusement qu'on n'a pas encore des terroristes qui savent faire des dénis de service.
Moi, j'ajouterais, par rapport à ce qui a été dit, un truc qui m'étonne, même très récemment, avec les différents projets qui ont démarré, c'est que c'est souvent les attaques les moins sophistiquées qui ont généré des projets. En l'occurrence, j'ai vu, tu l'as dit et tu avais raison, Vlad, les attaques qui visent à remplir les tables de session, par exemple, c'est bon, typiquement du Synflood, ce genre de choses. Moi, j'ai 2-3 projets qui ont démarré récemment avec des hébergeurs de taille moyenne, hein, pas des très gros hébergeurs, parce que leur firewall leur firewall était tombé, quoi. Hein. Les firewalls qui protégeaient les infrastructures clients étaient tombés, et c'était une conséquence directe de ce type d'attaque. Alors que par contre, quand tu vois certaines grandes entreprises dont le métier est lié au commerce, enfin le commerce électronique, hein, au .com, et que tu commences à parler d'attaques sophistiquées et autres, oui, bon, ils comprennent, mais bon, ça déclenche pas l'envie de démarrer un projet. Donc c'est marrant de voir cette espèce de contradiction entre d'un côté des projets qui démarrent sur des attaques très peu sophistiquées et assez anciennes, alors que finalement les attaques assez nouvelles et plus performantes sont pas forcément adressées aujourd'hui. Enfin, on en parlera peut-être après, mais
ouais, t'as quand même une attaque applicative qui marche relativement bien. C'est les saturation de table de hash, je sais pas si c'est le bon mot, mais
si ça revient à ça en général, les collisions
ouais, parce que, enfin, pour expliquer en deux mots, disons en général, quand tu fais des tableaux par exemple qui contiennent des entrées de session de nom d'utilisateur ou autre, c'est rarement des tableaux linéaires, et donc il y a une optimisation qui consiste en fait à répartir les données dans des buckets, et les buckets en fait sont juste des hashes, enfin pas des hashes, c'est des pseudo hashes très courts qui font 16 bits, pardon. Et donc si tu connais l'algorithme qui est utilisé, en fait tu peux envoyer des données de telle sorte que toutes les entrées soient stockées dans la même ligne, et du coup tu perds complètement le bénéfice de l'optimisation, et la durée de lookup devient exponentielle. Et en fait, à partir du moment où, alors je sais plus comment ça s'appelle en Java, c'est pas les HMAP ou les trucs comme ça, à partir du moment où tu sais que ton appli, elle va utiliser ça en face, c'est-à-dire la fonction native de Java, tu sais quel est l'algorithme utilisé, et donc tu peux très facilement rendre l'application complètement inopérante en saturant ces tableaux associatifs.
Bah, tu avais une attaque comme ça qui avait fait pas mal de bruit avec la sortie d'un outil dont j'ai oublié le nom, qui permettait de faire ça sur Apache, Tomcat, et donc de justement générer ces collisions et après tourner dans un comportement qui là demandait beaucoup de ressources CPU côté serveur, alors que de ton côté tu ne faisais qu'envoyer des petites requêtes avec plein de paramètres mais qui généraient ces collisions.
Mais tu as juste besoin de savoir si ton appli en face elle utilise Java ou PHP ou n'importe quel autre langage, et du coup, pour chaque langage, tu as un algorithme.
Mais il n'y a pas vraiment de solution. En fait, la plupart des serveurs applicatifs, pour contrer ça, en fait, mettent une limite du nombre de paramètres ou d'éléments qui sont gérés par ces hashes afin de ne pas tomber justement dans ces comportements détournés.
Bah si. Si, il y a une solution qui est d'utiliser un key de hash.
Ouais.
Un hash à clé, comme dirait Hervé. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage de l'application, tu utilises une graine aléatoire que tu introduis dans ton algorithme de hachage, et du coup, après, l'attaquant peut plus savoir comment vont se répartir les éléments dans les buckets.
Oui, à part ton employeur
donc,
qui fait ça.
Il y a des contre-mesures.
À part ton employeur qui fait ça.
Bah, regarde du côté des Murmures et CityHash. Et, enfin, bref. Oui, je suis d'accord que PHP le fait probablement pas, mais c'est pas un bon exemple.
Après,
et je pense qu'il, juste aussi pour revenir sur l'historique, je pense qu'il est intéressant aussi, c'est qu'au début, comme on le disait, les plupart des attaques, c'était un serveur qui attaquait un gros hébergeur, voire un grand fournisseur d'e-commerce, etc. Et puis pendant très longtemps, c'était les botnets. Donc ils essayaient d'avoir plein de botnets, etc. Dans le même temps, de spoof les sources, les adresses IP sources, etc. Bon, on se souvient que ce qu'on appelle chez les opérateurs BCP38, qui est une best current practice, qui dit qu'on devrait filtrer les adresses IP source en bordure de son réseau pour pas laisser passer, etc. Ça date aussi d'il y a quoi, dans 10-15 ans. Je me souviens même plus, quoi. Ça fait tellement longtemps, il y en a tellement qui le font pas. Mais aujourd'hui, c'est tellement simple de créer un botnet encore, les gens ne se fatiguent même plus à spoofer les adresses IP source. Ils ont des botnets de taille tellement conséquente que finalement, le fait de pouvoir spoofer l'adresse IP source n'est même plus tellement une demande forte.
Comme ça date de l'époque où j'allais à la ITF, c'est forcément quelque chose qui date de entre 98 et 2002.
Ouais, plus ou moins, ouais, ça doit faire 10-15 ans, quoi, je me souviens plus, c'est Paul Ferguson qui avait sorti une RFC, je sais plus quelle est la RFC, mais c'est BCP38,
oui,
ouais.
C'est l'époque où j'y étais, donc c'est forcément entre 98 et 2002.
Il me semble quand même que les attaques de type Reflected DNS ne fonctionneraient pas si les opérateurs filtraient en fonction de l'IP source, n'autorisaient à sortir que des adresses IP source qui sont chez eux.
Oui, bah, y a plein de trucs qui ne fonctionneraient pas si les serveurs étaient bien configurés. Et je crois que l'ANSI a lancé une initiative là-dedans, d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est la FNIC ou l'ANSI, enfin... En disant, bon, on va essayer de faire quelque chose, mais bon, qu'est-ce que tu veux? n'importe quel gars qui démarre une machine sur Internet avec un DNS masque, il se retrouve à faire réflecteur d'attaque DNS, quoi.
Et tu avais aussi beaucoup, faut pas l'oublier, c'est des équipements style les box chez tous les opérateurs, surtout chez les opérateurs, comment est-ce qu'on appelle ça, les MSO aux États-Unis, les opérateurs câbles, où tu avais justement un serveur DNS ouvert que tu pouvais utiliser, faire de la réflexion UPnP, etc. Donc c'est quasiment ce qui prédate la sécurité IoT, c'est toutes les box un peu partout que tu peux utiliser comme mécanisme de réflexion super distribué. Hein.
Ouais, c'est ce qui se passe avec Chargen aujourd'hui.
Oui, mais toutes ces box et tous ces équipements, ils sont quand même hébergés chez des opérateurs qui, normalement, ont la maîtrise des adresses IP sources, en fait, des adresses IP qu'elles détiennent. Et par conséquent, si des équipements se mettent à émettre des paquets avec des adresses IP sources provenant de sources qui ne sont pas, enfin, des IP qui ne sont pas dans leur range, normalement, ils seront en capacité de les bloquer.
Aujourd'hui, tu peux faire ça sur quasiment tous les équipements haut de gamme. Il y a quelques années encore, faire ce qu'on appelait de l'unicast RPF et du filtrage de ce type-là, bon courage. Nous, on a essayé de le faire très très tôt et il y avait des bugs partout. Et après, ça marche pas quand t'as des routes asymétriques, en fonction des protocoles de routage, comment tu reconverges ton réseau, ça marche pas non plus. En fonction de ta broadband gateway, ça marchait pas non plus. Donc, c'est quand même un acte fort et compliqué parce que un opérateur, par défaut, tu vois, il essaie de garder son réseau aussi ouvert que possible pour pas introduire de contraintes dans le réseau. Et c'est pas très simple. Donc, URPF aujourd'hui lié avec BGP, ça marche relativement bien, mais ça reste très compliqué. Et puis finalement, tu sais, il y a beaucoup d'opérateurs, aussi les opérateurs bulletproof et autres, ça les intéresse pas. Ils vont faire aucun effort parce que finalement, c'est pas eux qui se protègent, hein, et de faire ça pour la communauté, ça les intéresse pas trop.
Oui, bah j'imagine de toute façon que c'est pas si simple, parce que si c'était si simple, ça serait fait, quoi. Donc c'est clair que.
Question idiote, mais qui paye le trafic? Parce que quand t'as beaucoup d'uploads sur ton réseau, finalement, ça peut te rapporter de l'argent à la fin, non?
Bah, je sais pas si ça te rapporte de l'argent, mais ça t'aide peut-être, avec des points de peering, et comme ça, ton ratio de peering in et out, il marche mieux, je sais pas, non, mais là, je rigole, quoi, mais je sais pas, je pense pas que tu vois que ça fasse tellement mal aux opérateurs qui participent de manière, j'allais dire, innocente dans un botnet ou autre. Je suis pas persuadé que tu le ressentes très fortement.
Oui, là, par contre, la question est effectivement pertinente, hein, parce que quand tu regardes les tier 1, leur métier, c'est de revendre de la BP, et au final, le DDoS, c'est de la bande passante. Donc ça peut presque rapporter du business. En tout cas, tant que ça les impacte pas suffisamment pour péter leur backbone.
Ouais, mais c'est tellement réparti, pour reprendre le mot d'Hervé, que finalement tu le vois pas dans le trafic. Nous, si je regarde les statistiques chez nous, tu as tellement de bruit de fond qui sont peut-être des petites DDoS, etc., qui impactent peut-être quelqu'un sur Internet. Mais chez nous, tu vois, c'est 10-6% du trafic sur un lien, etc. Tu le sens pas. Je veux dire, c'est vraiment ceux qui sont près des sources d'attaque, ils le ressentent pas. C'est dès que tu te rapproches du destinataire, c'est là que tu commences à le ressentir. Je veux dire, plus t'es proche de celui-là qui se fait attaquer, plus tu le ressens. Mais tous les autres, finalement, ça fait partie du bruit de fond. Et moi, j'ai regardé récemment des statistiques entre il y a 10 ans, on a quasiment 25 fois plus de bruit de fond sur notre réseau qu'on avait avant. Donc tu vois, il y a plein de choses tout le temps qui se passent, etc., qui génèrent ce bruit de fond et ce qu'on appelle ces anomalies qu'on détecte avec nos systèmes de supervision. Mais tu vois, c'est pas impactant.
Et tu sais, en 2016, si t'as pas scanné Internet, t'as raté ta vie.
Nicolas, c'est intéressant ce que tu viens d'expliquer, dans le sens où pour les gros, donc les tier 1, bon, il n'y a pas grand intérêt à faire quoi que ce soit, parce que c'est quasiment invisible. Mais comme tu le disais, plus t'es proche de la destination de l'attaque et plus c'est compliqué. À titre d'exemple, une attaque dont on n'a pas encore parlé, mais ProtonMail, il n'y a pas si longtemps, finalement, ils ont une très grosse pression des ISP suisses pour payer finalement, hein, pour payer la rançon. Parce que ça avait un impact fort sur les acteurs économiques de l'internet autour, hein, au niveau suisse. Et donc les gars, ils ont mis une grosse pression pour dire, bah, finalement, on parle de 6 000 euros ou environ payés, et puis ça sera terminé. Bon, en fait, ça s'est pas terminé, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, il y a eu une pression forte. Donc d'un côté, les tier 1 disent ou pensent que ça change pas grand chose à la vie, donc on voit pas pourquoi on s'embêterait. Mais de l'autre côté, à l'autre extrême, il y a une grosse pression, parce que c'est quand même un gros problème.
Ouais, mais je pense que ça reste des cas sporadiques, hein. Si moi je regarde, ça doit faire quasiment 10 ans qu'on n'a pas eu de dommages collatéraux suite à un gros déni de service sur un de nos clients, ça arrive. Hein. C'est, je veux dire, t'as peut-être l'équivalent d'un DDoS par jour ou tous les deux jours qui est impactant pour un client. Mais la quantité de dommages collatéraux est très très limitée. Tu regardes, il y a 5-10 ans encore, bah, tu perdais une ville. Tu perdais un routeur, tu perdais une ville, tu perdais une région. Aujourd'hui, tu as tellement de mécanismes qui permettent de contraindre le trafic et de le distribuer d'une certaine manière et de réduire l'effet de l'attaque que finalement, c'est quasiment devenu business as usual de faire ça. Juste pour donner un exemple, tu vois, maintenant, je suis encore dans le processus d'escalade pour ça. Ça doit faire 2-3 ans que personne m'a appelé pour quelque chose qui était critique. Alors qu'avant, tu te faisais sortir de lit très souvent le samedi à 4h du matin pour ce genre de choses. Mais c'est quasiment devenu beaucoup de bruit de fond.
Et le business du déni de service, Louise Delabarre, c'est en développement, c'est...
Bon, en fait, ça dépend vraiment des secteurs économiques, comme l'a dit Hervé tout à l'heure. Nous, on voit quand même une forte demande. Alors, en France, c'est pas forcément intéressant parce qu'il y a pas beaucoup d'acteurs de ce domaine-là dont je vais parler. Mais à l'échelle internationale, c'est un domaine assez important. Donc, les gamers, par exemple. Donc, il y a eu, je pense que toutes les sociétés qui agissent ou interagissent autour des jeux en ligne, des jeux en réseau, sont fortement intéressées par des solutions de défense parce que c'est leur business directement qui est impacté. Là, comme l'exemple d'eBay tout à l'heure, hein, donc c'est de l'argent immédiatement perdu, donc c'est pour ça que c'est investi. Donc vraiment, en fonction du vertical dont on parle, la banque, évidemment, pour des problèmes peut-être plus d'image encore qu'autre chose, les gamers. Donc oui, il y a des secteurs dans lesquels, c'est quelque chose qui est, enfin, quand tu en parles, il y a une vraie écoute. Après, est-ce que les gens ont la volonté d'aller investir des sommes qui sont quand même relativement importantes. Aujourd'hui, on parlera peut-être des solutions tout à l'heure, mais il y a un écart type assez important en termes de prix sur les solutions du marché. Il y a les leaders qui sont assez chers, mais il y a quelques sociétés qui apparaissent avec des solutions pas chères du tout. Alors, bon, je sais pas trop ce que ça vaut en termes d'efficacité, j'ai pas eu le temps de les tester. Mais non, pour répondre à ta question, sur certains secteurs économiques, c'est un vrai business. Pour preuve, je crois que c'est OVH hein, qui a une solution de protection DDoS spécifique aux gamers, parce qu'ils hébergent des gamers. Donc, en effet, dans certains secteurs, c'est important. Ouais.
Alors, j'ai mal posé ma question, je vais la préciser. Le business côté attaquant, j'entends par là le chantage, etc.
Quelles sont les motivations des attaquants en fait?
Ouais. Ah bah t'en as pas plusieurs.
Les motivations, je te laisse répondre peut-être là.
Ouais, t'as les grands classiques, c'est nuire à l'image d'une entreprise, empêcher, comme on l'a dit au tout début, empêcher les utilisateurs légitimes d'utiliser un service. Il y en a parfois aussi pour la démonstration. On a vu ça une fois chez un client où en fait un client s'est fait dédosser et on a retrouvé quelques minutes après une vidéo de démonstration sur YouTube d'un gars qui disait bah voilà, regardez, on a pu dédosser le site, ça marchait plus, voilà, achetez notre outil. T'as aussi les classiques actes politiques, bon ça c'est assez classique. Le chantage aussi, principalement sur tout ce qui est jeu en ligne, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure Louis sur ProtonMail, et parfois aussi pour dissimuler de l'intrusion, voire de l'exfiltration. Alors par contre c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire un DDoS suffisamment important pour avoir un impact, mais pas trop pour pouvoir quand même continuer sur l'intrusion et exfiltrer ses données.
Et ça il y a des vrais exemples de ça ou c'est un mythe
On a des vrais exemples, on en parlera tout à l'heure dans les exemples actuels comme l'Inode.
Que tu peux dédosser aussi pour occuper les équipes sécurité pendant que tu vas exfiltrer tranquillement par un lien ADSL ou
Sûr, par un autre accès, oui.
Tu as rappelé ProtonMail, je voudrais pas faire un focus trop important sur eux, mais c'est assez récent. Moi, ça ouvre une vraie question, on se pose une vraie question autour du cas ProtonMail, parce qu'on parle des motivations. Au début, ProtonMail apparaissait vraiment comme un exemple classique de chantage, puisque c'est le collectif Armada là qui soi-disant était à l'origine de l'attaque, avec une demande de rançon qui a été payée, mais finalement l'attaque a continué. Et quand on voit l'activité première de ProtonMail, qui est donc l'échange de d'emails chiffrés, on peut imaginer tout l'intérêt d'utiliser ce genre de service. On peut se demander si finalement l'attaque elle vient pas de collectif Armada, mais pourquoi pas d'un État ou d'une entité associée à un État ou je ne sais quoi, qui aurait pour intérêt de rendre ce service inopérant pendant un certain temps.
Alors là, si tu commences à penser à l'attribution des attaques,
Oui, non, mais vrai, Nicolas, hein. Il a une paire de dés. Je crois que t'en as combien de dés? C'est combien il faut jeter de dés? C'est deux ou trois?
C'est deux.
Ceci dit, il y a quand même... Ce coup-ci, c'est quoi? C'est Russie avec Syncfluid, c'est ça?
Alors, mais on peut parler d'un cas réel qui est celui de GitHub.
Ah oui, avec la Chine.
Qui hébergeait des projets permettant de contourner les censures du gouvernement chinois. Et là, l'attaque, en fait, a été opérée en injectant du code HTML chez les internautes chinois qui traversaient le Great Firewall of China pour aller surfer sur l'Internet. Et donc, le petit bout de JavaScript qui était ajouté dans toutes les pages se connectait sur un projet GitHub pour le rendre indisponible. Donc là, je veux dire, c'est pas un truc qui peut arriver par
accident. Non, parce qu'il faut être vraiment sur le chemin.
C'est quelqu'un qui route sur le firewall de la Chine qui
ouais, tous les utilisateurs qui allaient sur Baidu, mais en HTTP et pas en HTTPS, se retrouvaient avec un petit JavaScript en cadeau qui faisait des requêtes sur GitHub.
Sur deux projets spécifiques.
Oui, en plus, oui.
Et juste pour revenir sur l'aspect chantage financier, je sais même plus pour ton mail, c'était Armada ou c'était aussi le groupe DD4BC qui demandait 20 ou 40 bitcoins, qui avait une campagne qui s'arrêtait pas. DD4BC, moi, j'en ai vu passer pas mal parce qu'il y a pas mal de clients qui nous ont contactés pour qu'on les aide, etc. Et finalement, je crois que sur les, je vais pas dire de chiffres, mais sur ceux qui nous ont, je crois qu'il y en a aucun qui a finalement été attaqué. Il n'y en a aucun qui a payé, en tout cas d'après ce qu'ils nous ont dit, et il n'y en a aucun qui a été attaqué, donc on savait pas, enfin ça semblait aussi être un peu un gros pipeau, quoi. Donc
En tout cas sur le cas que je connais, en effet, hein, comme tu viens de le dire, ils n'ont pas été attaqués derrière, ils ont été attaqués dans un premier temps pour montrer que malgré tout il y avait une capacité à les attaquer, et ça les a mobilisés. Par contre, ça a mobilisé toutes les équipes qui allaient bien toute une nuit avant le démarrage de la soi-disant attaque prévue par DD4BC. Ouais, en l'occurrence, c'est vrai, ils n'ont pas été attaqués derrière. Alors, est-ce que c'est les éléments de contre-mesure qui ont été mis en place qui ont été efficaces? Je pourrais pas le dire. Mais on se demande s'il n'y a pas un peu de flanc derrière, enfin, en tout cas du bluff. Hein.
Et c'est un cabinet de conseil payé par le RSSI pour faire avancer les projets internes.
Pourquoi pas?
Ils ne sont pas payés assez cher pour pouvoir s'acheter un botnet.
Bah, ça enchaîne très bien sur la thématique suivante qui est les sources des attaques.
Alors qu'est-ce qui peut faire un déni de service?
Tout. Principalement, genre. Principalement, tu as t'as surtout les botnets, les tiens, enfin celui que tu t'es créé toi-même, les botnets loués, où t'as pas mal de services, on en reparlera un tout petit peu après, pas mal de services qui te proposent de la location de load ou de stress test. Sur une durée
de stresseur, ouais. Ouais, c'est marrant,
sur une durée de quelques minutes, quelques heures, et pas très cher. Et puis après, t'as tout ce qui est objets connectés, routeurs SAU dont la sécurité est une catastrophe. Enfin, tous les objets et équipements réseau connectés qui peuvent être compromis et être utilisés pour réaliser une attaque en délit de service.
Alors, il y a quelques années, on a aussi entendu beaucoup parler du client Loïc.
Oui, alors après, tu as les suicidaires qui téléchargent un petit programme sur Internet, répondent à un message sur Twitter et attaquent depuis leur propre ligne ADSL à la maison avec cet outil Clicodrome et se retrouvent après devant Monsieur le juge. Mais il y a aussi ça.
Bah, t'avais Loïc et t'avais pas, je sais plus, c'était pas l'attaque contre l'Estonie où c'était un forum russe où vous avez juste une commande ping, il fallait faire un copier-coller chez toi et tu faisais un ping permanent vers des adresses IP des sites gouvernementaux et d'e-commerce en Estonie.
Ça, ouais.
C'était en Estonie, je me souviens plus. Donc tu vois, c'est donc ping, c'est un outil dangereux, quoi. Il faut
le bannir. T'as aussi l'attaque classique.
C'est Russie contre Estonie.
T'as aussi un truc classique, mais qui marche pas si ton site fait du cache ou du CDN, c'est de récupérer un élément statique du site, genre une image ou un truc comme ça, de mettre ça sur un forum qui est très très fréquenté, et toutes les personnes qui vont sur le forum télécharge l'élément qui est sur le site, et donc ça crée des requêtes massives sur un site et ça permet de le faire tomber.
Ah, tu sais, le déni de service le plus célèbre, c'est quand la CNIL a condamné Google à mettre en page d'accueil un lien vers le site de la CNIL.
Oui, c'est vrai. Le site de la CNIL n'était pas taillé pour tenir.
On peut aussi parler de Corben et du fameux effet Corben. Donc il y a eu quelques entreprises ou quelques sites en fait qui ont eu à subir des DDoS. Simplement parce que Corben avait fait un article sur le site en question.
L'effet Slashdot français, quoi.
Voilà.
Moi, je pense qu'on va voir arriver, on l'a dit très rapidement, mais on va voir arriver aussi l'importance de l'IoT, l'Internet des objets, parce que bon, en effet, aujourd'hui, on peut utiliser des botnets de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de machines. Mais alors, quand tous les objets ou la plupart des objets seront connectés, et puis comme évidemment, seront pas forcément sécurisés, on peut l'imaginer, ils feront une cible ou un outil de choix pour les outils d'attaque. Hein, enfin, pour les sociétés qui
veulent. Pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fait, ils utilisent souvent des communications avec un débit qui est inversement proportionnel au nombre d'objets. Mmh. C'est pas comme une imprimante qui est connectée en haut débit.
Ouais, je comprends. Maintenant, on l'a vu, hein, si tu as des milliards d'objets, même connectés à très très bas débit, qui font une petite commande, ça va suffire, même un ping, hein, on vient de le dire, ça va suffire quand même à faire du mal, quoi. Hein.
Donc, oui, tout à fait.
On peut jouer le volume. Tu as raison sur le côté bande passante, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui, puisque aujourd'hui beaucoup de monde en France et ailleurs possède plusieurs gigas de bande passante à droite à gauche pour pas trop cher. Donc c'est vrai que là tu as quand même un levier assez conséquent sur l'internet des objets, comme tu viens de le dire. On va pas forcément jouer sur la bande passante, mais beaucoup sur le volume, le nombre d'objets, quoi.
Et leur objectif, c'est l'économie d'énergie, hein.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu vois aussi, c'est que historiquement des gros botnets qui ont été démantelés, t'avais des centaines de milliers voire des millions de machines qui étaient infectées, qui faisaient partie du botnet, etc., pour avoir une force de frappe conséquente. Nous, dans des attaques récentes, on a un peu regardé ce qui se passait. Le botnet était minime. T'avais quelques centaines de machines voire moins. Donc tu vois, ils sont aussi passés d'un modèle où t'avais des très gros botnets et ils avaient peur de les perdre. Et si tu perdais ton botnet, tu perdais des millions de machines. Et maintenant, en fait, avec le temps, ils en ont fait plein de petits. Et la force de frappe reste assez conséquente pour générer les quelques gigas, enfin quelques centaines de mégas, voire quelques gigas de trafic qu'il faut pour détruire la plupart des sites. Enfin détruire, pardon, ou rendre inopérable.
Qu'il y a moins de machines, mais elles sont toutes connectées en haut débit.
Exactement. Mmh. Mmh.
Il y a Lizard Squad, on les a pas cités encore, mais Lizard Squad, je crois qu'ils, dans l'une de leurs campagnes, là, pour faire du stress as a service ou du DDoS as a service, ça dépend comment on le présente, ils utilisent des routeurs SO, des routeurs à la maison, qu'ils ont compromis et dans lesquels ils ont un peu injecté de code. Donc, ils ont assez bien préparé leur truc. Alors, par contre, je suis incapable de dire aujourd'hui combien ils auraient compromis de routeurs pour pouvoir avoir un botnet assez conséquent et pouvoir proposer leur service de stress. Mais bon, ils ont pas mal basé leur attaque sur ces routeurs à domicile qui sont pas sécurisés et, comme on vient de le dire, avec de la bande passante assez importante.
Et tous ces malfaisants qui offrent DDoS as a service, ils le vendent combien ?
Les prix, c'est quelques dollars. Là, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as, par exemple, là, pour 600 secondes de DDoS, c'est 5 dollars. Une heure de DDoS, 10 dollars. Voilà, les prix. Après, ça dépend de la bande passante consommée, mais un gros DDoS, soit 600 secondes, 20 dollars. Enfin, les prix, c'est vraiment abordable. Hein. Pour un RSSI qui n'a pas beaucoup de budget, c'est tout à fait abordable.
Et c'est peut-être aussi pour ça que les DDoS sont de plus en plus courts, parce qu'historiquement, quand tu regardais, nous, on avait des clients qui se faisaient attaquer pendant des jours et des jours, alors que maintenant, la plupart des DDoS, c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, etc. Et c'est pas juste parce que les gens savent répondre plus rapidement et réduire l'attaque, c'est aussi parce que les attaques sont beaucoup plus courtes en durée. Moi, je me souviens d'un client en Allemagne, je crois qu'il a été attaqué pendant 2 ou 3 semaines, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, tu vois plus ça dépasse rarement l'heure.
Ouais, alors ce qui me fait dire, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même, il y a dans certains cas, alors c'est vrai que c'est très peu, hein, comparé aux autres attaques DDoS quotidiennes qui sont pas très lourdes et qui durent pas très très longtemps, il y a certains cas, ProtonMail, une fois encore, hein, ça a duré 3 semaines. Et en plus, quand on regarde un peu l'attaque, on voit bien que les personnes qui attaquaient, ont adapté systématiquement leur attaque en fonction des défenses et des contre-mesures qui ont été mises en place. Donc c'est pas quelqu'un à un moment donné qui s'est dit tiens je vais attaquer, je vais utiliser ce que je sais faire, alors j'ai n'importe quoi, Loïc, ou je loue un service de stresseur pendant 3 jours histoire de mettre ProtonMail par terre. Non, là les gars ils ont utilisé une première techno, ils ont attaqué, il y a eu des contre-mesures, ils sont passés à un deuxième vecteur d'attaque, il y a eu des contre-mesures, ils sont passés à un troisième vecteur d'attaque. Enfin il y en a eu comme ça un grand nombre et ça a duré très longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est au bout de 3-4 jours, les ISP suisses qui ont mis une pression sur ProtonMail pour qu'ils payent, ils ont payé, ça a continué. Et si un éditeur ne les avait pas aidés pour mettre en place les bonnes compétences, d'ailleurs même ProtonMail a été assez créatif dans le sens où, un, ils ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, quant à leur attaque. Ils n'ont pas du tout caché le truc. Donc ça, c'est quand même assez nouveau malgré tout. Et puis aussi ils ont utilisé les nouvelles technologies puisqu'ils ont fait du crowdfunding pour trouver des moyens pour après mettre en place des outils de défense puisqu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas le budget.
Mais je pense que c'est quasiment
c'est quasiment l'exception. Hein.
Ouais, je trouve que c'est l'exception parce qu'on a eu, je crois, historiquement, je me souviens chez nous de deux, peut-être trois cas où effectivement l'attaquant adaptait sa technique d'attaque par rapport au mécanisme de défense qui était mis en place par le client ou par nous en tant qu'opérateur, etc. Mais franchement, la 99% des attaques, c'est les gars, c'est du point and click ou l'équivalent de point and click, etc. Ils réfléchissent pas et puis si ça marche, ça marche. Mmh. Et puis t'as pas du tout de réaction au mécanisme de défense mis en place. Mais effectivement, t'as des cas isolés et peut-être Protonmail, c'est l'exemple récent effectivement.
On va sûrement parler après des stratégies de défense, mais je voudrais juste faire une parenthèse sur ce point-là, sur ce qu'on vient de dire. D'ailleurs, c'est inquiétant pour nous éditeurs, hein, parce que je travaille chez un éditeur. C'est inquiétant parce qu'en effet, il y a quelques RSSI qui ont fait qui ont eu cette même réflexion. Et qui se disent petit 1, ça dure le temps que ça dure, je courbe les chines, de toute façon ça va pas durer plus que quelques heures et mon business n'est pas 100% dépendant de ce genre de choses. Ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième, il y a quelques RSSI, alors c'est dangereux parce que c'est quand même leur job, mais qui se disent j'ai pas les compétences de la NSA, de je ne sais quel organisme, et ces gens-là se font attaquer. Donc moi je suis tout petit dans mon coin, j'ai pas les compétences, je les aurais pas, donc je fais rien. Donc aujourd'hui moi je rencontre des gens qui me disent, alors c'est souvent des petites entreprises, mais qui me disent je sais que je suis attaqué, je courbe les chines, je m'arrange pour que le business fonctionne autrement s'il y a un lien avec le business, mais j'essaye même pas d'investir sur ce sont DDoS, de protection contre les attaques DDoS, pardon, parce qu'elles sont trop chères et je peux pas me les acheter.
Moi, la plupart des clients, c'est encore vu très souvent, comme tu le dis, comme une assurance. Ouais. Et ils prennent cette assurance pour un an ou deux ans suivant les types de contrats, etc., parce qu'ils vont peut-être pas le faire eux-mêmes. Et puis au bout d'un ou deux ans, s'ils sont pas attaqués, cette ligne de budget disparaît. Ouais. Donc c'est vraiment encore vu comme de l'assurance, mais ça fait pas du tout partie du domaine fondamental des blocs, des blocs sécurité. Hein,
alors que pour $10, tu vois, tu peux récupérer ta ligne de budget en une petite attaque d'une heure et voilà.
Mais pour se protéger alors de ces attaques en déni de service réparti, vous proposez quel genre de solution, à quel prix ?
Voilà, t'attaques déjà les solutions techniques, toi, aujourd'hui... tu veux même pas faire un petit peu de cycle projet, organisation, gouvernance avant ?
Et tiens, peut-être avant de parler de solutions, Vlad, tout à l'heure, tu parlais d'un exemple où un DDoS avait été réalisé pour mener une exfiltration de données. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, comme c'est très très récent, pas beaucoup plus, mais c'est concernant l'inode. De ce que j'ai compris au début, donc il y avait juste un DDoS, je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier. Et dans ce que j'ai lu rapidement sur Twitter et sur les articles, c'est qu'apparemment le DDoS a surtout servi à masquer une exfiltration de données. Donc ça date d'hier ou d'aujourd'hui, je crois. Ah oui, alors comme l'émission sera écoutée lundi, bon, donc il y a une semaine.
Non, mais tu peux donner la date, y a pas de souci. C'est pas du faux direct, c'est de l'enregistrer.
Oui, on voulait parler quoi d'organisationnel.
Ouais, d'organisationnel.
Ouais. Ouais. Bah, je crois qu'on a un peu déjà parlé un peu plus tôt dans le podcast, mais ça reste quelque chose qui, moi je vois ça très souvent, les clients, c'est ils savent pas quoi faire. Les équipes se parlent pas en interne, entre ce que je disais, les équipes réseau, les équipes sécurité, les équipes qui font le développement applicatif, les équipes qui font de l'architecture IT, etc. Tu vois, t'es très souvent là et c'est toi qui fais le pont entre ces différentes équipes. Donc ça, c'est juste sur la partie construction. Et aussi, très, très souvent, dans l'architecture n'est pas du tout prévue pour résister à ça. Très souvent, l'architecture n'est même pas prévue pour résister à la montée en charge. Alors, je veux dire, l'aspect déni de service, etc., n'est même pas pris en compte. Et même beaucoup de grands comptes, encore aujourd'hui, tu vois qu'ils mettent tous les œufs dans le même panier. Tes serveurs DNS, tous les serveurs web, les serveurs applicatifs, la connexion Internet, tout est au même endroit, dans le même centre d'hébergement, chez le même opérateur, sur les mêmes serveurs physiques de temps en temps. De temps en temps, c'est même des machines virtuelles sur les mêmes équipements physiques. Et après, quand il se fait attaquer, le client, il fait « qu'est-ce que je fais ?» Essayer de déplacer ça, on peut pas, parce que c'est codé en dur. Enfin, il y a encore tellement de choses. Je veux dire, c'est vraiment toute la partie process en c'est la partie process en amont qui est pas encore rentrée dans les mœurs.
Mais ouais, mais sur le plan organisationnel, là encore, c'est de la continuité d'activité. C'est-à-dire que soit les gens, ils se sont organisés pour être résilients, soit ils se sont pas organisés pour ça. S'ils se sont organisés pour ça, bon, ben, dès l'instant que le business ne peut plus fonctionner parce que l'informatique a été attaquée par un déni de service réparti, eh bien, on passe dans les modes de secours habituels, comme si la salle machine était brûlée ou sous les eaux. Ça change absolument.
Même avant ça, il faut juste déjà faire ton analyse de risque pour savoir si t'es juste sensible ou dépendant d'un DDoS ou pas. Tu vas faire ton inventaire de tes applications, de tes services, éventuellement de tes partenaires, tes sous-traitants, et voir si un DDoS peut t'impacter ou pas. Puis après,
Tu serais pas vu en formation quelque part, toi?
Mais oui, non, mais c'est vrai. D'abord.
Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi dans l'élément de cycle de vie, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça le jour où ils se font attaquer. Et après, il se passe plus rien pendant des années, donc ils vont faire une analyse de risque le jour où ils se font attaquer. Ils vont essayer d'y répondre tant bien que possible, mais tu reviens un an après. Je veux dire, je pense que ça fait partie. Enfin,
tu en parlais un peu, Hervé. Avec exactement, le PDCA, ouais. Une fois que tu l'as mis en place, tu le conserves éternellement.
D'ailleurs, c'est un business qui est florissant, hein. C'est-à-dire que ce que tu viens d'expliquer, Nicolas, c'est-à-dire qu'en gros, comme tu l'as dit, les gars, ils ont fait leur analyse de risque ou pas, d'ailleurs, ils n'ont pas investi sur des solutions de protection, mais le jour où ça arrive, eh ben, ils appellent les éditeurs qui ont tous une solution qu'on appelle Red Button ou alerte je ne sais quoi, qui permet en quelques heures, si tu fais un gros chèque, de faire une redirection de trafic vers un scrubbing center et d'essayer de faire la mitigation sur ces attaques là. Donc ça peut être aussi une façon d'adresser le problème. Bon, ça coûte quand même suffisamment cher, ce qui fait que si ça t'arrive 2-3 fois, faut peut-être penser à mettre quelque chose en œuvre, quitte à en effet mettre en place un plan de continuité d'activité. Non, il y a des gens qui ont, moi j'ai des clients qui me l'ont dit clairement, qui m'ont dit bon, j'investis pas, en tout cas pas cette année, je fais en sorte que si ça m'arrive, très rapidement, quelques heures, je puisse déclencher quelque chose.
Ça c'est déjà une stratégie de continuité, ce que tu viens d'expliquer, Louis. C'est quelqu'un qui a justement fait son appréciation des risques et qui a une stratégie de continuité. Et n'oubliez pas que une stratégie de continuité où on décide de prendre le risque et d'être prêt à répondre le jour où on est attaqué, c'est une stratégie qui est parfaitement acceptable dans tout un tas de contextes. Je mets rien en place pour réduire le risque, rien en place pour le prévenir, simplement je ferai l'effort de le gérer
au moins,
le jour où
sais.
Ça m'arrive.
Tu le sais que tu as pris cette décision.
Et tu comprends quels éléments de ton infrastructure et ton applicatif doivent être prêts pour te permettre de faire ça. Parce qu'il y en a plein, effectivement, comme tu dis, qui se retrouvent aussi, Louis, dans ce cas-là. Par contre, quand ils ont tout au même endroit, avec le serveur DNS, il faut que tu les déplaces, tu as les problèmes de cache, etc., de timeout, de tout basculer, tu peux pouvoir rediriger un /24, enfin, l'équivalent de ce qu'on appelle une classe C, etc. Je veux dire, tu as quand même beaucoup de contraintes. Donc, ce que disait Hervé est juste, quoi. Les gens qui peuvent faire ça, ils ont peut-être déjà réfléchi peut-être à minima sur la continuité d'activité. Mais on a vu des clients qui se sont retrouvés coincés avec des serveurs DNS derrière des lignes DSL, enfin on a des choses pas possibles. Donc et là ça commence commence à être très très compliqué parce que les applicatifs, tu peux même pas les déplacer parce qu'il y a tellement de choses codées en dur qui font partie de leur core business que c'est très très compliqué. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un minimum à faire et après t'as des approches différentes, t'es pas obligé d'acheter des équipements toi-même, tu vas voir soit ton opérateur, soit un éditeur, soit un fournisseur de scrubbing as a service et autres, de machines à laver as a service, effectivement.
Il faudrait peut-être qu'on explique un petit peu toutes ces solutions là de résistance au déni de service, que là on a utilisé plein de mots qui sont peut-être pas très clairs.
On le dira juste après, mais peut-être un dernier point sur l'organisationnel, c'est que Hervé, l'organisationnel c'est pour toi. C'est qu'une fois que tu as choisi ta solution, il faut quand même mettre en place toute l'organisation derrière, parce que c'est pas juste comme ça, j'active. Déjà, comment est-ce qu'on détecte un DDoS, un déni de service? Comment est-ce qu'on sait que c'est une véritable attaque et pas une campagne de communication par le marketing et donc des utilisateurs légitimes? Donc t'as pas mal de choses à mettre en place pour être sûr que c'est une véritable attaque, la qualifier. Et puis après, mettre tout ton organisationnel qui décide. Alors, J'espère qu'il va pas écouter, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ça, il était dans la salle où je présentais, il s'est reconnu. Mais j'ai connu le cas d'une entreprise avec un RSSI où le workflow décisionnel, donc désigner ce RSSI comme celui qui validait la bascule pour mettre en place toutes les protections, sauf que il était pas au courant, il était pas d'astreinte, il avait pas de téléphone. Mais c'est lui qui, dans la procédure, était nommé. Donc, un samedi soir à 2h du matin, c'était impossible de le contacter. Bon, après, ça a été corrigé, ça. Mais donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte comme ça. Il y a aussi un truc tout bête, c'est donc dans le cadre où tu as une solution qui te permet de te prémunir du DDoS, c'est que c'est eux qui détectent. Si la détection se fait par l'envoi d'un mail qu'ils t'envoient par ton accès internet qui est saturé, bah le mail tu le reçois pas. De la même manière, si tu utilises une solution de TOIP qui passe par cet accès et qu'on essaie de te joindre par téléphone, bah ça marche pas. Donc il y a tout ça à réfléchir quand on met en place. Et puis après il y a les grands classiques, j'amène rapidement sur tout ce qui est tester ta procédure régulièrement et puis voilà le PDCA, amélioration continue, etc.
Mais je pense qu'il y a un autre point qui est relativement important que Vlad, dont Vlad a parlé, c'est la partie visibilité et télémétrie. Quand tu sais pas ce qui se passe, comment tu veux trouver quelle est la source de l'attaque, qu'est-ce qui est attaqué, qu'est-ce qui se passe, etc. Et globalement, je dirais, on arrive enfin à avoir de la télémétrie un peu partout dans le réseau, dans l'applicatif, etc. Il y a encore 5 ans, tu parlais de NetFlow, d'équivalent de NetFlow pour les équipementiers réseau, tu vois, de la visibilité applicative, d'avoir l'équivalent de Splunk et autres qui faisaient l'analyse plus ou moins temps réel des événements, des journaux, etc. Tu avais rien. Et le client, effectivement, il disait, ça marche plus, mais on sait pas pourquoi ça marche pas. Et tu venais un peu avec ton sniffer, avec ton Wireshark ou ton TCP dump sous le bras et tu te mettais sur le réseau et tu regardais ce qui se passait. Non, il dit, moi j'ai pris l'avion une fois avec mon laptop sous le bras, avec mon Wireshark, et je l'ai plugué dans un port miroir chez un client pour lui aider à comprendre ce qui se passait. Et c'était un gros client, et ils n'avaient aucun élément de visibilité dans leur réseau.
Parce que d'habitude, la situation, c'est plutôt ça marche et personne ne
sait pourquoi. Oui, par rapport aux attaques dont on parlait tout à l'heure, autant une attaque volumétrique, bon là, ça se voit, c'est pas très discret. Par contre, une attaque applicative qui va vraiment cibler tes serveurs, tu vas avoir un dysfonctionnement de ton site, des ralentissements, des problématiques, et t'es pas forcément sûr que ce soit une attaque, hein, ça peut être juste un bug, donc c'est compliqué à diagnostiquer.
Allez, Hervé, c'est l'heure de parler justement de solutions.
Oui, alors justement, quels sont les différents types de solutions pour être résilient et ne pas subir ces attaques en déni de service réparti? Il faut acheter des produits, acheter des logiciels, acheter des boîtiers, acheter des services auprès de sociétés spécialisées. Qu'est-ce que vous
recommandez? Alors moi, il y a un truc que je recommande et que j'aime bien et qui coûte pas cher, c'est juste de durcir tes équipements existants. C'est-à-dire que la plupart des boîtes ont déjà des solutions type des routeurs, firewall, etc., ont déjà une certaine sécurité périmétrique et qui, si on la durcit plutôt bien, permet quand même de se prémunir d'un certain nombre d'attaques ou en tout cas de mieux résister aux premières secondes, voire premières minutes des grosses attaques. Bon, après, tu passes à d'autres solutions. Mais au moins ça, pour moi, c'est primordial et franchement, ça coûte pas très cher.
Je confirme, on peut déjà commencer par ça, complètement, t'as totalement raison, Vlad. Après, si on veut commencer à s'équiper d'une solution, alors les grands, je vais comme ça lancer à la cantonade quelques termes parce que c'est les grands débats lorsqu'on parle de solutions de protection contre les attaques DDoS. Bon, aujourd'hui, sur un plan architecture, il y a des solutions qui sont plutôt basées sur du cloud et ça, tout le monde le propose. C'est ce qui permet plutôt d'adresser le volumétrique puisque évidemment, si t'as une solution qui est derrière ta ligne d'accès à Internet, t'es un peu coincé si jamais le tuyau il est rempli. Donc premier point, c'est le cloud. Le deuxième point, c'est d'avoir un équipement qui va être plutôt côté client, qui lui va permettre de regarder, de voir tout ce qui est attaque applicative et de détecter tout ce qui est ce qu'on appelle low and slow, donc les attaques comme SlowLoris et autres. Et maintenant très à la mode, les approches hybrides où tu combines les deux. Donc ça, aujourd'hui, tous les éditeurs sont capables de le proposer. Donc généralement, donc déjà, si on est en une vue 30 000 pieds d'altitude, cloud, on-premise, approche hybride. Après, il y a des différences notoires sur un plan technologique entre les différents éditeurs. Typiquement, est-ce que je veux faire du rate limiting? Est-ce que je veux simplement détecter des seuils comme ça de trafic? Ou est-ce que je veux aller un peu plus loin avec de l'analyse comportementale? Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière le mot analyse comportementale? C'est déjà un peu plus complexe à expliquer, mais malgré tout, aujourd'hui, voilà, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui font plutôt du rate limiting et des gens qui font plutôt de l'analyse comportementale. Ensuite, si tu veux aussi aller un peu plus loin dans ton analyse en termes de solutions techniques, tu vas devoir te dire, bon bah, est-ce que je suis plutôt une entreprise ? Et si j'ai une entreprise et que je veux protéger plutôt mon data center, je vais plutôt m'orienter, si je veux mettre un équipement on-premise, évidemment, je vais plutôt m'orienter sur du inline, c'est-à-dire que je vais mettre un équipement niveau 2, donc sans adresse IP, sans MAC adresse, et qui lui va détecter un certain nombre d'attaques de type DOS en particulier et type applicative. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, elle est de ce qu'on appelle, pour reprendre encore un terme anglais, mais elle est de type out of pass. Et donc out of pass, c'est typiquement utiliser du NetFlow, remonter des informations de ces différents routeurs ou équipements qui supportent NetFlow et être capable de faire de la détection basée sur NetFlow. Et là, on a différentes solutions du marché qui savent le faire également. La plupart des éditeurs savent le faire. Donc ce que dans tout ce que je viens de dire, si je parle donc d'architecture hybride, cloud ou on-premise, ou si je parle d'une architecture plutôt inline ou une architecture out of pass, ça ne différencie pas les éditeurs. La plupart du temps, ils ont tous soit l'un, soit l'autre. Donc après, c'est juste un choix d'architecture de l'utilisateur. Par contre, il y a des différences notoires. Dès qu'on parle un peu plus précisément, par exemple, un mot-clé qui revient tout le temps avec certains éditeurs, est-ce que mon équipement qui est on-premise est stateless ou stateful ? Donc ça, c'est une des questions qu'on peut se poser par rapport aux attaques de type DOS ou DDoS. Si je désire mettre en place une solution qui sera pas forcément sensible aux attaques, parce que il faut encore, si tu mets un équipement qui est pas super, il peut être lui-même la cible de l'attaque. Donc typiquement, il faut plutôt peut-être s'orienter sur une solution de type stateless. Voilà, j'étais un peu long dans ma réponse. Mais voilà, c'est ce qui permet peut-être de réfléchir à ce qu'on désire mettre en œuvre. Une fois encore, une analyse de risque et peut-être une discussion avec un architecte permet de faire le choix entre une solution cloud, on-premise.
Pour un simple site marchand, il suffit pas d'avoir l'option qui va bien chez son hébergeur.
Alors oui, je vais donner mon point de vue là-dessus. C'est une vraie discussion, un vrai débat. Si t'es site marchand et que tu veux, toujours en lien avec ton analyse de risque, plutôt adresser des problèmes d'attaque volumétrique, bon, la plupart du temps, une réponse auprès de ton opérateur, si elle est de qualité, hein, une fois encore, faut l'évaluer, mais une réponse de ton opérateur devrait suffire. Par contre, si dans ton analyse de risque, tu veux inclure, et j'imagine que tu l'as fait lorsque tu es un site e-marchand, tu veux inclure tout ce qui attaque HTTP, que ça soit des floods, mais aussi bon du SQL injection, ce genre de choses, ou du leak d'informations, parce que certains équipements de protection DDoS savent le détecter et le bloquer, là, il faut peut-être compléter l'offre opérateur par un équipement on-premise, qui peut être de la même technologie, hein, mais avec un équipement on-premise qui sera réglé différemment, configuré différemment, et qui visera cette fois-ci à plutôt détecter les attaques fines applicatives.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Louis, sur ça. En fait, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients. C'est soit ils viennent nous voir nous et puis ils prennent notre offre de service pour protéger plus contre le volumétrique et puis protéger même les la partie session HTTP, HTTPS et autres sans vouloir toucher trop l'applicatif parce que nous, on n'a pas connaissance de leur applicatif et de la logique qui existe dedans. Et très souvent, ils complètent ça par ce que tu appelles des équipements on-premise. Et après, tu as ce qu'on appelle du cloud signaling, pour utiliser un autre mot anglais, entre cet équipement qui est sur site et la partie opérateur. Et puis, ce qu'il y a aussi, je pense que tu n'en as pas parlé, mais ça revient un peu sur ce que disait Vlad sur la partie durcissement. Moi, je reviens toujours en arrière chez le client et puis on parle de l'élément d'architecture. Qu'est-ce qu'il doit faire au niveau architecture pour que ça fonctionne? Donc, où se trouvent les serveurs DNS? Où se trouvent les serveurs de messagerie? Quels sont les applicatifs? Comment est-ce que c'est distribué? Qu'est-ce qui est chez eux? Qu'est-ce qui est dans un cloud? Qu'est-ce qui est hébergé autre part? Comment est-ce que tout fonctionne ensemble? Et puis après, tu rajoutes la couche protection, enfin, détection des services pour la partie détection, visibilité, télémétrie et la partie réponse. Mais d'essayer de répondre avec une solution quelle qu'elle soit, si l'architecture ne permet pas de le mettre en place, je veux dire, tu te retrouves bloqué très 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 souvent.
Ouais, je suis d'accord. Il y a un point aussi, j'ajouterais, j'en ai pas parlé du tout, et par contre qui aujourd'hui est un vrai débat. Alors, il faut déjà être un peu mature sur la réflexion sur les protections possibles contre les attaques DOS et DDoS, mais une fois que tu es un peu mature sur ce sujet-là, il y a un vrai débat, et là c'est hyper différenciateur entre différentes solutions du marché, c'est SSL. Alors là, comment tu veux adresser les attaques SSL? Parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Je vais pas revenir sur le fait que maintenant HTTPv2 le pousse, que Google pousse SSL et autres. SSL est un vrai problème parce que les infras qui résisteraient pas trop mal à de l'HTTP et attaques classiques résisteront plutôt très mal à des attaques SSL. Donc les gens l'ont compris et aujourd'hui si tu veux vraiment faire mal à un site e-marchand, enfin e-commerce et autres, tu peux immédiatement prendre toute la batterie d'attaques SSL, les renégociations SSL, enfin il y a un certain nombre de floods SSL, enfin il y a un certain nombre d'attaques qui vont faire mal au niveau SSL, et là clairement les solutions ne sont pas égales sur le marché.
Ouais, je suis d'accord, et je pense que ça c'est le prochain caustique qu'on va voir un peu de tout ce qu'on a vu historiquement, c'est quand beaucoup de sites vont basculer sur SSL et que les attaques vont vraiment se focaliser sur ça. Pour l'instant c'est encore très limité aussi quoi, et je pense que parce que c'est trop simple de le faire autrement, et je pense effectivement que t'as raison, quand on aura beaucoup plus de SSL ça va être dur à gérer. Et puis aussi les gens qui se disent on va déporter SSL, faire du NFV sur du x86 etc, franchement il va falloir vraiment y réfléchir pour voir comment gérer ça, gérer la partie attaque.
Il y a un autre point qui a été oublié quand même sur la partie parce qu'en fait parmi toutes les solutions finalement dans les solutions dites cloud, il y en a une qui peut être particulièrement intéressante, c'est tout ce qui est CDN, dit aussi parfois Edge. Alors d'habitude on cite pas de nom, mais enfin il y a le grand leader mondial qui est quand même Akamai. Ça c'est les solutions qui peuvent être intéressantes pour les sites web, parce que par construction le CDN, le fonctionnement, c'est j'ai des serveurs partout sur la planète qui en gros font du cache. Donc si on attaque, en fait on attaque les serveurs qui sont près des attaquants, et comme les serveurs font du cache, ça n'arrive pas jusqu'à la cible. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour les sites web, en particulier les sites marchands, avec deux contraintes. La première, quand on fait du SSL, bah, c'est qu'il faut leur filer, enfin, c'est, faut pas leur filer les clés. Eux génèrent des clés pour les certificats qu'ils possèdent. Donc, suivant la criticité de tes données, ça peut être gênant. Et l'autre point, c'est que ça ne protège pas ton data center. Les IP de ton data center sont toujours joignables. Donc là, effectivement, si on trouve les IP de ton data center et qu'on les dédose, il faut trouver une autre solution. Mais les CDN, enfin, sont pertinents pour pas mal de cas quand même.
Et je pense qu'ils sont pertinents, mais t'as très souvent un problème de coût. Après, pour les grandes entreprises, effectivement, ils ont très souvent maintenant une stratégie de CDN. Ils font plus du Joomla et du WordPress sur un serveur caché sous un bureau. Mais pour la PME ou même la grosse PME, un fournisseur de CDN reste quasiment trop cher. Et la complexité que tu as en plus. Enfin, nous, tu vois, t'as vraiment une grosse différence. T'as les grands comptes qui font du CDN parce que ça fait vraiment partie de leur stratégie. Mais tous les autres CDN, ça, c'est une complexité et un coût.
C'est marrant, j'ai le retour inverse. Moi, j'ai plutôt les petits moyens comptes qui font du CDN. Et par contre, les très gros comptes qui ont leur propre data center, qui ont leur PKI, leur secret, etc., qui vont pas trop vers le CDN parce que ça pose beaucoup de contraintes de sécurité.
Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. C'est vraiment, ouais, j'ai vraiment des retours inverses, moi. Ouais.
Alors attention, Vlad, moi j'irai encore un peu plus loin dans la nuance, hein, parce qu'aujourd'hui ce que je peux voir moi, c'est que les petites entreprises, enfin je parle pas nécessairement de PME, mais voilà, pas le CAC 40, hein, les boîtes un peu plus petites font ce qu'on appelle du WAF dans le cloud, et c'est-à-dire qu'elles ont à la fois une réponse au DDoS, hein, parce que les offreurs du marché, alors je vais pas donner de nom, mais il y a pas mal d'offreurs du marché, y compris celui que tu as cité, qui permet d'une part de réagir et de protéger les sites par rapport aux attaques DDoS jusqu'à un certain débit, et en plus de fournir une protection contre les attaques classiques OWASP 10 avec leur WAF dans le cloud. Et donc toutes les boîtes, on va dire de taille intermédiaire, c'est quand même assez intéressant parce qu'elles ont avec une solution pas trop chère par application, un truc qui fait de l'anti-DDoS et aussi une protection quand même pas trop mal contre les attaques de type OWASP 10. Par contre, les grosses entreprises, ouais, je pense qu'elles ont plutôt intérêt à raisonner data center quand elles hébergent le service chez eux. Alors, et on a oublié peut-être un cas de figure qui est malgré tout le plus fréquent. C'est les grosses entreprises ou entreprises de taille moyenne. Elles ont les deux. Elles ont un data center et des services dans le cloud. Donc, la plupart du temps, elles essayent d'avoir, enfin, quand elles ont les moyens, elles essayent d'avoir une approche un peu plus smart où on va leur mettre un équipement on-premise côté data center et qu'on va compléter par quelque chose dans le cloud en amont qui lui adressera les deux. c'est-à-dire les services hébergés dans un cloud quelconque, plus la partie data center avec l'équipement on-premise, avec ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, du cloud signaling pour avoir de l'information partagée entre l'équipement on-premise et dans le cloud. Donc ça, c'est là, on est vraiment sur les gens qui veulent très bien s'équiper, mais ça arrive. Mais l'offre WAF DDoS dans le cloud a un assez gros succès en ce moment.
Ouais, ça je suis assez d'accord avec toi sur WAF DDoS. Par contre, tu vois, Vlad, est-ce que toi, quand toi tu dis CDN, tu penses hébergement dans le cloud, ou est-ce que tu penses vraiment CDN ou tu...
Ouais,
as,
non, pure CDN, c'est-à-dire que tu n'héberges pas, tu as ton propre data center, tu as tes propres serveurs, mais juste pour gérer la capacité au niveau monde, enfin, voire sur une plaque régionale, tu as un CDN qui te sert à faire du cache et puis éventuellement il y a des couches de sécurité supplémentaires, avec la contrainte que tu ne fais que du web, donc ça ne protège que de l'HTTP, HTTPS et HTTPS. Les clés sont chez le CDN, donc ça peut poser des problèmes.
Et uniquement pour la partie statique, c'est-à-dire que toutes les pages dynamiques...
Non, pour le dynamique, ça marche aussi, ça marche, ils arrivent à le faire. Mais après, par contre, dès que tu fais du mail, d'autres protocoles qui sont pas gérés par les CDN, bah là, ça marche pas, ça arrive directement sur ton data center et il te faut une autre solution.
Je pense que la seule qui marche encore à côté, c'est la partie DNS de faire du Anycast. Et ça, tu le vois quand même, je pense que la plupart des offreurs CDN aussi maintenant t'offrent du DNS Anycast dans leur offre de service. Et ça aussi, ça fait relativement sens parce que c'est très très dur de contourner tes annonces BGP.
Tu peux préciser DNS Anycast?
DNS Anycast, c'est que par exemple, tu héberges un serveur DNS avec la même adresse IP à plusieurs endroits dans le monde. Et en fait, ta route, ton BGP ou ta vue réseau, ça sera toujours la route la plus courte. Et toi, en tant qu'utilisateur final, tu peux pas décider du chemin que va prendre le paquet pour aller là-bas. Donc, ça fait un effet dément pour le trafic. Et ça, c'est ce qui protège ce qu'on appelle les routes serveurs. Donc, route ROOT qui héberge, qui pointe après vers les 13, parce qu'il y a 13 instances, mais il y en a beaucoup plus physiquement. Utiliser ce modèle-là, c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de casser ou de bloquer les serveurs routes qui pointent après vers les différents serveurs TLD et autres. Et ça, c'est une technique qui marche très très bien. Et on l'utilise même pour d'autres choses. Les gens ont commencé à l'utiliser pour de la connexion. Donc l'orienté TCP, parce que le réseau est relativement stable, il change pas assez souvent. Donc même si tu es obligé de gérer de la session, tu peux faire de l'Anycast. On a vu des gens qui font du TCP Anycast, même si ça reste l'exception.
Et vous connaissez des... Parce que j'ai vu passer, moi, une start-up française qui s'appelle Sixcure. Vous savez ce que c'est?
Ouais, c'est un éditeur de solutions anti-DDoS, donc qui font des appliances plutôt performantes qui permettent de...
Bah, c'est une solution souveraine, ça.
Oui, 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 tout à fait.
Ouais, c'est un spin-off de France Télécom Orange, ouais. Ouais, c'est des gens qui sont à Caen, je crois. Ils sont du côté de Caen.
Ouais, c'est ça, oui.
Ouais, ouais. Non, moi je les connais bien aussi. Ils sont très sympas, par ailleurs.
De toute façon, ça reste un marché en développement. T'as quelques gros acteurs. Après, t'as les équipementiers qui faisaient du pare-feu, de l'IPS et autres, qui se lançaient dans la protection des DDoS. Et t'as pléthoré de start-up qui sont arrivés ces deux dernières années, dans différentes régions du monde, Donc, t'as vraiment, c'est devenu hyper concurrentiel. Ça reste cher, mais c'est devenu hyper concurrentiel.
Ok, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez ajouter des choses?
Les attaques récentes dont on a parlé tout à l'heure, peut-être en détailler certaines. Donc Linode, on en a un petit peu parlé. ProtonMail, on en a un petit peu parlé aussi. Le coût des injections de JavaScript dans les pages web, enfin les pages de Baidu en Chine aussi, on en a parlé. Et on n'a pas parlé du poivre de Sichuan. Alors, je crois que c'est le nom qu'a donné Stéphane Borsmeyer à l'attaque, qui était plutôt assez rigolote. Où en fait, les utilisateurs chinois qui faisaient des requêtes DNS pour accéder à des sites comme Facebook ou autres, au lieu de recevoir l'adresse IP de Facebook, recevait soit des adresses IP random, soit des adresses IP de cible. Alors je prends l'exemple, par exemple, du site web de l'OSIR. Donc au lieu d'avoir l'IP de Facebook, il recevait l'adresse IP de l'OSIR et donc se connectait au site web de l'OSIR et envoyait des tas de requêtes pensant que c'était Facebook, enfin des requêtes pour Facebook, et ça saturait totalement donc les cibles, donc comme le site de l'OSIR. Donc il y a cette attaque.
Mais où est la compromis? Qui est-ce qui a été compromis dans l'histoire?
Eh bien, comme c'est en Chine, on ne le sait pas. C'est le grand firewall chinois, on ne sait pas. On suppose que c'était une attaque étatique, mais ou que c'est un des fonctionnements du firewall. C'est au lieu de te répondre une adresse IP fausse, genre 127.0.0.1, te répond une adresse IP random, et donc ça arrive au hasard chez quelqu'un.
Et donc le but, c'était d'empêcher les utilisateurs d'arriver sur Facebook ou...
soit d'empêcher les utilisateurs effectivement d'accéder à ces sites-là, soit de réaliser des attaques DDoS sur des sites.
Ok, sûr que c'est pas un mec qui a juste poussé du code en production et qui avait pas testé avant. Hein.
Et comment l'OSIRP peut gêner la Chine?
Non, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trafic.
Comment l'OSIRP peut gêner la Chine?
Ben, je sais que dans les logs de l'OSIRP, on en avait reçu des requêtes comme ça où en fait. Ton host name, c'est Facebook ou autre, et en fait,
non, mais le but, c'est pas Facebook. À la cible. Le but, c'est qu'à la source, les gens se connectent pas à la bonne machine, et après, peu importe où ils vont se connecter. Oui, le problème s'est posé, je crois qu'il y a des sous-réseaux de IPv4 qui ont été rendus dans le domaine public. Alors, je sais plus si c'est 1111 ou 2222 qui avant appartenait à quelqu'un ou était pas routé, et finalement, il s'est retrouvé routé. Et t'avais plein de gens qui avaient mis 2222 comme adresse IP par défaut dans leur labo à la maison. Donc le pauvre gars qui a récupéré l'adresse, il s'est fait défoncer.
Mais je me demande si c'est pas Orange en France. Hein.
Je crois que c'est Orange.
Je crois que c'est Orange. Non, mais je crois que c'est 1.2/16 qu'ils ont récupéré. Et puis justement, 1.2.3.4 par défaut. Ouais. Mais t'as le problème. Hein, c'est clair.
Comme test@test.com. Quoi, ça. Je voudrais pas avoir cette adresse mail.
Bah, le example.com,
t'as eu aussi récemment
RFC, mais le test.com, je ne sais pas.
Non, c'est juste example.com.
Ouais. Et le dernier exemple de DDoS, c'est celui dont avait parlé Stéphane Borsmeyer aussi récemment, qui était une attaque DDoS sur les serveurs root DNS et qui a été quand même assez fulgurante et qui en a fait tomber pas mal. Donc, qui date du mois dernier.
Stéphane Borsmeyer, qui a fait une excellente émission sur DNSSEC, que je vous invite à réécouter sur le site de No Limit Sécu.
Bon, ça me semble être une excellente conclusion, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.